Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme condamne les attaques de Boko Haram au Nigeria. La crise alimentaire en RCA. Au Moyen-Orient, l'hiver continue d'affecter les enfants syriens. Et fin de visite du secrétaire général en Inde. En dossier, 5 ans après le séisme de 2010, des milliers d'Haïtiens sont toujours déplacés. Enfin, dans Voix de femmes, les femmes d'affaires monte en puissance. Le Conseil de sécurité a examiné ce matin le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou, la représentante spéciale de Ban Ki-moon et chef de l'ONUCI, l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire, a présenté devant les 15 ce rapport axé principalement sur les progrès et les défis, sur les droits de l'homme, les questions régionales ainsi que sur la situation politique et sécuritaire à l'approche de l'élection présidentielle cette année dans ce pays. On l'écoute.
La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, s'engage dans une année électorale. La création d'un environnement propice pour des élections libres, démocratiques et équitables est assujettie aux avancées qui doivent être faites dans le domaine des réformes électorales, dans le domaine du maintien du dialogue politique, le domaine du DDR, de la réforme du secteur de sécurité et dans le domaine de la justice. La Côte d'Ivoire a encore besoin d'être soutenue pour consolider les acquis obtenus jusque-là et pour mener à son terme l'important processus dans lequel elle est aujourd'hui engagée. Pour ce faire, le soutien continu du Conseil de sécurité, des États membres, des partenaires internationaux et régionaux demeure essentiel.
Nigeria. Le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a vivement déploré ce mardi les attaques impitoyables et vicieuses contre des civils dans la ville de Baga, au nord-est du pays, devenu le théâtre d'opérations du groupe Boko Haram depuis le 3 janvier. Le bureau affirme que malgré le peu d'informations, des massacres de masse et des déplacements forcés ont bel et bien eu lieu. Les tueries des marchés à Maïdougiri et à Potiskum, où des fillettes n'ayant que 10 ans auraient été forcés à perpétrer des attaques, sont aussi particulièrement choquantes. Le haut-commissaire exhorte le gouvernement à agir rapidement. Ravina Shamdasani, porte-parole du haut-commissaire à Genève.
Pour le moment, c'est impossible d'avoir une estimation correcte des nombres de morts. Il y a des estimations assez différentes, mais c'est clair qu'il y a eu un massacre. Il y a plusieurs témoins et ils ont expliqué la situation, comment ça s'est passé. Mais c'est impossible de compter les nombres de morts. C'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement de prendre des actions assez rapides pour faire une enquête pour déterminer les nombres de morts, la culpabilité et pour rendre aux justices les responsables de ces attaques.
En République centrafricaine, à l'approche de la saison des soudures, 1,5 million de personnes sont en état d'insécurité alimentaire, modérée ou sévère. Un tiers de la population a besoin d'une assistance alimentaire et l'on constate une perte de 50% des récoltes et de 77% du bétail dans le pays. Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Le PAM, qui a mené une enquête auprès de 2200 ménages à travers tout le pays, et s'inquiète des conséquences durable de cette crise. Les précisions d'Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Les stratégies d'adaptation qui ont été prises par la population sont de plus en plus irréversibles et touchent près des deux tiers des ménages qui ont recours à ces stratégies de survie. Donc le Programme alimentaire mondial est très préoccupé par cette situation. Les principales contraintes citées par les ménages pour générer des revenus sont le manque de capital pour investir, 61%, le manque d'opportunités d'emploi, 31%, et malheureusement le manque de terres et d'équipements à 27%. Et on voit encore une fois que les femmes sont les plus touchées par rapport aux hommes et par rapport à l'accès à la terre.
Alors que le conflit en Syrie approche la marque des 4 ans, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance estime qu'au moins 7 millions d'enfants déplacés et réfugiés ont désespérément besoin d'aide en raison de l'hiver dur qui s'abat sur le Moyen-Orient. Les températures dans certaines parties de la Syrie atteignent moins 11 degrés Celsius. Beaucoup d'enfants continuent de vivre dans des abris inadéquats, exposés à des températures inférieures à zéro, à la neige et au vent fort. 6 enfants sont morts en raison du froid. Des cas incendies sont rapportés dans des habitations dues à des feux allumés sans sécurité par des familles pour se chauffer. L'UNICEF et ses partenaires s'activent. Christophe Boulirac.
UNICEF et ses partenaires continuent de surveiller l'évolution de la situation en apportant une réponse immédiate. Cette réponse consiste par exemple à fournir des tentes et des kits d'hygiène avec d'autres acteurs comme le HCR, la Croix-Rouge, fournir des couvertures ou bien de soutenir le ministère de l'Éducation en fournissant des cuves de carburant, des radiateurs dans 65 écoles pour qu'en Syrie, 40 000 enfants et environ 1 400 enseignants puissent travailler dans un environnement qui le permette. Au total, nous avons l'objectif de réchauffer, si je puis dire, 583 écoles en Syrie et au Liban.
Et puis le secrétaire général achève aujourd'hui une visite en Inde à l'ordre du jour ce mardi, des entretiens avec le président Pranab Mukherjee, le ministre de l'Environnement Prakash Javadekar et le prix Nobel Kailash Satyarthi, ainsi que des rencontres avec le personnel de l'ONU et les chefs des agences des Nations Unies. Le résumé de ces trois jours de visite avec Jérôme Longuet.
De ce voyage en Inde, on retiendra les appels forts lancés par Ban Ki-moon. Premier message, celui de lundi en faveur de la paix. Le secrétaire général a exhorté l'Inde à jouer un rôle moteur en faveur du désarmement nucléaire en Asie du Sud. Ban Ki-moon s'est dit troublé par l'absence de désarmement au niveau mondial, alors même que l'extrémisme violent et la radicalisation sont en hausse. Autre appel du secrétaire général, le retour aux enseignements de Gandhi sur la paix et la tolérance, et ce dans un discours prononcé dimanche à l'ashram de Sabarmati dans l'état du Gujarat. Le secrétaire général qui a rappelé que l'accent mis par le Mahatma sur les pauvres trouve un écho dans les efforts déployés par les Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté et construire un monde pacifique. Ban Ki-moon, qui tout au long de sa visite a souligné que 2015 devait être l'année de l'action mondiale comportant trois priorités. La réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, l'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015 et la conclusion à Paris en décembre d'un accord universel sur les changements climatiques.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité. 5 ans après le séisme de 2010 qui a tué plus de 200 000 personnes et laissé 1,5 million de personnes sans logement, des dizaines de milliers d'Haïtiens sont toujours déplacés, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Même si l'OIM se félicite de la baisse de 94% du nombre d'Haïtiens déplacés et de 93% du nombre de sites accueillant toujours des populations déplacées, l'organisation exhorte la communauté internationale à ne pas oublier les quelques 80 000 personnes qui continuent d'attendre la chance de reconstruire leur vie avec un toit sur la tête. Reportage de Minusta FM avec Franck Santana, coordonnateur de projet en relocalisation à l'OIM.
Il n'y a rien qui a vraiment manqué dans les efforts que les agences internationales et locales ont fait. C'est qu'on a travaillé coude à coude avec le gouvernement haïtien et avec toutes les agences. On a fait beaucoup d'efforts. Si on voit que la diminution de 1500 camps à 500 camps depuis 2010, ça veut dire qu'une réduction de 92-94% des sites. Le travail continue. Ça va lier notamment aux disponibilités des fonds qui sont toujours en train d'arriver en Haïti, plus lentement certains, mais beaucoup de pays qui sont solidaires avec Haïti, comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Suède, sont des pays qui collaborent chaque année pour supporter avec des fonds pour des projets de relocalisation, pour des projets de construction de maisons. Donc le travail continue et ce qui pourrait peut-être manquer, c'est beaucoup plus d'infrastructures qui permet d'accélérer le travail, mais tout le monde est dans le compromis d'avancer et on espère que bientôt cette situation sera finie.
Vous avez dit des infrastructures, permettez-nous d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais là, c'est une situation qui évolue, qui a beaucoup évolué, comme vous le dites. Et Madame Davis a elle-même souligné beaucoup d'actions qui ont été réalisées et jusque-là. Les gens, ils vivent encore dans une situation assez difficile. Notre collègue Louis Fontal l'a montré. Et ils sont quand même impatients par rapport à la situation qu'ils vivent. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir ces infrastructures qui manquent et quelles sont ces infrastructures qui manquent? Et selon vous, quand est-ce qu'on peut espérer les avoir?
Évidemment, l'infrastructure, tout après le tremblement de terre, a été bien touchée par le séisme. Oui, mais évidemment, reloger des personnes dans des infrastructures qui ont tombé, c'était impossible. Oui. Mais tout après l'événement, les gens ont commencé à reconstruire leurs propres maisons. Le gouvernement, avec les fonds qui étaient disponibles, ont aussi commencé à enlever les débris. Et peu à peu, beaucoup de ceux qui avaient perdu leur maison l'ont reconstruit. Et l'ont reconstruit avec des chambres additionnelles qui commençaient à louer à d'autrui. Et ces infrastructures ont absorbé peu à peu les gens qu'on était assistés. Mais bien avant que les gens soient assistés, beaucoup d'eux ont sorti par leurs propres moyens des camps, à travers leurs propres efforts. Et c'était un mouvement large des personnes qui sortaient des camps vers des maisons. D'autres infrastructures qui seraient nécessaires, c'est savoir à qui appartient tel terrain pour savoir si on peut l'acheter, le louer pour y construire. Et évidemment, le tremblement de terre a touché beaucoup la capacité d'information des titres d'état foncier. Et tout ça empêche beaucoup savoir où, comment, quand on pourrait reconstruire pour mettre à disponibilité des déplacés, des maisons pour y vivre.
Voix de femme.
Le nombre de femmes cadres moyens et supérieurs a augmenté au cours des 20 dernières années. Les femmes sont toutefois encore sous-représentées dans les autres sphères de direction. C'est ce que constate une nouvelle étude publiée lundi par l'Organisation internationale du travail, Femmes d'affaires et femmes cadres, une montée en puissance. Explication de Déborah France Massin, directrice du Bureau des activités pour les employeurs de l'OIT, au micro de Daniel Johnson.
Je crois qu'on a vu deux choses au fil de 20 dernières années. C'est vrai que les femmes sont encore pas aussi présentes dans les postes de haute direction. Mais dans 80 sur les 108 pays qu'on a eu les statistiques, la proportion des femmes dans les cadres moyens ont quand même augmenté pendant cette période.
Vous avez trouvé une amélioration par rapport à ces 20 dernières années, mais on a toujours que 5% des cadres supérieurs dans les multinationales sont représentés par les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup plus de femmes?
C'est vrai que quand on parle de le plafond de verre, les fissures sont là, mais le plafond tient toujours. Alors, si on regarde ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, ce qu'on voit de positif, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les couches moyennes de direction et de management, qui, avec une formation, avec une action orientée par les entreprises et par la société, peuvent d'ici les 5-10 ans à venir, visent ces postes de direction.
Est-ce qu'elles vont pouvoir quand même réussir à échapper aux couches moyennes de management comme les ressources humaines? Je dis ça parce qu'il me semble que les femmes n'ont jamais l'occasion de postuler pour ces postes de cadre supérieur s'ils n'ont pas l'expérience globale d'une entreprise. Et selon le rapport, il me semble que les femmes sont un peu exclues des rôles qui sont toujours le domaine des hommes.
Oui, vous avez tout à fait raison. Si l'entreprise n'a pas une vraie politique au sein de l'entreprise pour voir comment ils peuvent promouvoir les femmes, au moins d'avoir une politique de formation qui les expose à tous les éléments de la direction de l'entreprise. C'est vrai, c'est très difficile pour elles d'accéder dans l'avenir à ces postes. Alors, il faut vraiment une politique ciblée au sein de l'entreprise pour voir ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, il faut exposer les femmes à tous les niveaux de toutes les opérations et les fonctions au sein de l'entreprise. Il faut regarder la formation qui est pour les hommes et les femmes d'ailleurs, en termes de management et de direction au sein de l'entreprise. Il faut regarder la culture même de l'entreprise. Si on est visé à 9h à 5h et ne regarde pas comment on peut concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, et de regarder la flexibilité au sein de l'entreprise. Maintenant, avec la technologie, on a beaucoup plus de chances de concilier une vie qui était parfois difficile dans le passé.
C'est-à-dire que pas besoin de mettre en place des quotas? Parce qu'il suffit que l'entreprise réfléchisse à une politique qui prend en compte les femmes et les hommes.
Ce que les entreprises avec qui on travaille nous disent, c'est que pour eux, ils croient que les quotas ne sont pas toujours efficaces. C'est-à-dire, ils mettent en termes un chiffre où il faut atteindre, mais ils ne regardent pas vraiment le nœud de la guerre. C'est vrai que dans les pays où les quotas sont en place, c'est vrai que ça a eu un effet sur le nombre de femmes qui sont présentes sur les conseils de direction des entreprises. On ne peut pas le nier. Mais maintenant, on voit qu'il y a un manque de talents parce que c'est toujours les mêmes femmes qui sont présentes sur les conseils de direction.
Et c'est avec Déborah France Massin que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.